aujourd'hui pour vous parler d'un objet qui est un de ceux qui m'a fait venir à Chambéry. Puisque quand j'étais encore à Vienne, donc Vienne, Isère, hein, pas Vienne, Autriche, lors de ma première visite à Chambéry, j'ai découvert évidemment le musée savoisien, et il y a deux objets qui m'ont particulièrement marqué, les peintures de Cruet, je suis médiéviste, donc c'est un peu l'évidence, mais également ces panneaux avec des estampes, puisque dans ma formation à l'école des Chartes, j'avais été bien sensibilisé à la question des estampes, mais je ne connaissais absolument pas cet usage de l'estampe. Et donc, au moment où j'ai visité le musée savoisien, je ne savais pas du tout que j'allais venir à Chambéry. Et depuis, évidemment, j'ai tout fait pour que cet élément continue d'être présenté dans le parcours permanent du musée. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous donner quelques éléments de contexte. La maison, son fonctionnement. Ensuite, d'essayer de vous convaincre que c'est vraiment un ensemble exceptionnel. Puis de vous donner quelques éléments sur ceux qui ont apporté les images dans la maison. Et enfin, je vous proposerai d'entrer un peu plus dans certaines de ces images. Alors, la maison, c'est celle-ci. En 1976, le propriétaire de la maison, Guy-Pierre Trac, contacte le musée parce qu'il souhaite faire des travaux importants dans cette maison, et donc il veut la vider. Et il pense qu'il y a peut-être des objets qui pourraient intéresser le musée. Les conservateurs du musée savoisien s'y rendent, et en plus des objets, ben, ils découvrent cet ensemble d'estampes. Et c'est ce qui les décide à faire une campagne photographique pour relever l'état du bâtiment, puisque les travaux qui sont projetés par la famille Trac sont très importants. Vous pouvez toujours voir cette maison à Bessin. Il en reste d'origine à peu près les murs. Et encore, ils ont été aussi bien repercés, les fenêtres ont été agrandies, les ouvertures aussi. Donc, cette campagne photographique est vraiment essentielle pour nous pour comprendre comment fonctionnait la maison au moment où ces panneaux ont été déposés. Donc ici, vous avez la façade côté rue principale et une autre façade sur la rue secondaire. C'est à partir de cette rue secondaire qu'on peut entrer dans la cour par cette arche. Là, nous sommes à l'intérieur de la cour, c'est la moitié droite de la façade, où vous voyez qu'il s'agit d'une maison sur deux étages. Et au milieu de cette façade, on a une petite excroissance qui abrite l'entrée au rez-de-chaussée et la chapelle à l'étage, et donc la suite de la façade. Alors, pour vous repérer peut-être plus facilement, voici le plan, avec donc la cour que vous voyez ici, l'entrée ici, oui, merci. Et ici, ce que vous connaissez probablement bien, c'est la cohabitation, donc l'endroit où l'hiver, les animaux et les habitants de la maison vivent ensemble pour conserver la chaleur. Ici, la cuisine et la pièce pour la conservation et la transformation du lait. Donc, quelques images de l'intérieur. Vous voyez qu'en fait, en 1977, la maison ne fonctionne plus comme elle avait fonctionné par le passé. Ça faisait déjà plusieurs décennies qu'elle servait essentiellement de bergerie et de débarras. Et donc, c'est cet état un peu d'abandon qu'on voit dans les photos. Dans les objets que le musée savoisien a achetés à la famille Trac à cette occasion, il y a ce grand vaisselier donc qui était dans la cuisine au rez-de-chaussée. Voilà la partie où se trouvaient les bêtes. Et ici, vous voyez une table avec un pied en forme de balustre. C'est une table du XVIIe siècle qui a été aussi acheté par le musée et qui est aujourd'hui le plus ancien meuble savoyard qui est conservé dans les collections. C'est vraiment un meuble tout à fait exceptionnel. Et il a une histoire très récente, puisque lorsqu'on a commencé à travailler avec Adeline Rispal, la scénographe du musée actuel, elle a été très marquée par cette table, et c'est le profil du pied en balustre qui lui a donné l'idée du profil du mobilier qu'on a aujourd'hui, qui a cette forme comme ça un peu évidé, donc évidemment réinterprété de manière très contemporaine, mais voilà, c'est un élément qui fait que la Maurienne marque beaucoup la scénographie du musée Savoisien, même si on ne le voit pas au premier abord. Nous allons maintenant monter à l'étage, par la cage d'escalier qui est ici, où on retrouve les deux chambres d'été et la grange où était conservé le fond. Ici, une petite pièce qui est qualifiée par la famille Trac en 1977 de chapelle. Et voilà ici l'état du grenier au moment où les éléments ont été achetés par le musée. Alors sur l'histoire de la maison, on a la chance d'avoir la maison elle-même qui est déjà très bavarde, plus que d'autres maisons. Pardon. Vous voyez que sur plusieurs linteaux de portes et de fenêtres, on a des dates, donc 1617, et on a même le mois de mars. Donc c'est probablement le début de la construction, pour trouver 1617 ici également. Et on a 1619 qui apparaît aussi sur d'autres linteaux. Donc on a probablement le début et la fin de la construction de la maison, 1617-1619. On ne retrouve pas de date aussi précise dans les archives. L'élément le plus probant qu'on a pour dater la maison, c'est un testament de Jean-Baptiste Peyraz de 1718. Et donc Jean-Baptiste Peyraz qui est qualifié de châtelain de Bessan dans ce testament, c'est-à-dire représentant du duc de Savoie. Il nous dit que c'est Jean Peyraz qui est le constructeur de la maison. Alors, ça ne nous dit pas forcément beaucoup plus, mais ça nous montre que, depuis sa construction, la maison est restée dans la même famille Peyraz. Les Peyraz, comme dans beaucoup de familles, ont une tradition assez forte de conserver les mêmes prénoms. De père en fils, on s'appelle de la même manière, ce qui n'est pas pour nous simplifier la vie. Donc, le prénom dynastique, si je puis dire, c'est Jean-Baptiste, donc ils s'appellent tous Jean-Baptiste. Il y en a cinq, en fait, entre le XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, dont un qui meurt en 1672. Et alors, je l'ai agrandi beaucoup, mais vous allez devoir me croire sur parole. Ici, nous avons une signature qui est celle de Jean-Baptiste Peyraz, qui est un élément qui nous prouve que ce sont bien les Peyraz qui ont collé ces estampes. C'est une famille qu'on connaît dans les archives. Alors, les recherches en archives, elles ont été menées au moment de l'acquisition de ces panneaux par le musée. C'est Yvan Cadenne qui a fait une grande partie de ses recherches en archives et qui trouve des Peyraz. Donc, en plus du châtelain, on a aussi des praticiens, un secrétaire de politique, qui donne l'impression d'une famille assez aisée pour Bessan, qui joue un rôle dans, si je puis dire, l'administration municipale, dans l'organisation de la communauté. Donc des gens qui savent écrire. On en a qui sont qualifiés de regrattiers, de merciers, donc qui ont une activité de marchande. Dans la structure de la maison, on voit qu'ils sont aussi, ils ont aussi une activité d'élevage, très probablement. Donc, avec tous ces éléments, ça donne la sensation d'une famille qui fait plutôt partie des familles les plus influentes de Bessan. Alors, cet ensemble, c'est aujourd'hui à peu près 60 estampes qui ont été collées successivement dans deux chambres. Le fait qu'on ne les trouve que dans ces deux chambres, alors c'est peut-être le plus logique, on met les images auxquelles on tient à un endroit important de la maison symboliquement, qui sont les chambres qui peuvent être des lieux où on reçoit. On peut aussi imaginer qu'il y a des questions de conservation. Si on avait des estampes au rez-de-chaussée, des pièces qui sont un peu plus humides, probablement qu'elles seraient tombées. Il est aussi possible qu'elles aient été collées sur des meubles qu'on ait perdus. Dans d'autres maisons de Bessan, avec des aménagements plus récents, on a des images dans la cohabitation sur les lits. C'est possible qu'on en ait eu ici, sauf que les lits avaient déjà disparu en 1977 dans la campagne photographique et au moment où les meubles ont été acquis par le musée. Donc, celles dont je vais vous parler sont concentrées vraiment dans ces deux chambres. Ces images, on les trouve sur les meubles. Alors ici, vous en voyez une petite trace sur la porte de l'armoire. sur les volets intérieurs de cette fenêtre, donc là on est toujours dans la première chambre, la chambre du sud, le volet n'a pas été déposé par le musée, probablement parce que l'estampe était déjà beaucoup trop endommagée. On en trouve aussi en très grand nombre sur les poutres. Vous en voyez ici toute une série. Ces poutres-là n'ont pas été déposées par le musée. Je dis ces poutres-là parce qu'il y en a quand même qui ont été prélevées, mais c'était plutôt les extrémités à l'extérieur, en façade, qui portaient des décors ou des inscriptions. On trouve aussi des estampes sur la cage d'escalier. Vous voyez en partie haute ici, également sur la porte, et je vous en montrerai aussi sur le chambranle entre les deux vantaux. Vous retrouvez encore des estampes sur une poutre ici, et ici, sur la cloison qui sépare les deux chambres. Alors, je vous disais que c'était un état plutôt d'abandon ou de débarras, là vous voyez bien le côté débarras, qui fait qu'une partie des estampes qu'on connaît aujourd'hui sont masquées par les meubles que vous voyez ici. Dans la seconde chambre, qui est plus petite, les estampes sont essentiellement sur la cloison. Vous les en voyez ici. Il y en a aussi au revers de la porte. Voilà la fin de la cloison. Et on en trouve quand même encore quelques-unes sur les poutres. Pour la date de ces estampes, la plus ancienne dont on est sûr de la date, c'est celle-ci. Vous voyez, on est sur un détail de cette partie-là. Vous avez la date de 1603, avec le nom du graveur, Enrietto de Rossi. Donc c'est un graveur de Mondovi. Et c'est une image qui nous pose un peu problème, parce que je vous ai dit, la maison commence à être construite en 1617, elle est achevée en 1619, et là on a une image qui est plus ancienne. Donc il y a trois hypothèses envisageables. La première, c'est que la famille était très attachée à cette image, l'a achetée en 1603, l'a gardée pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils aient fini de construire leur nouvelle maison et qu'ils la collent dans la maison. Ça paraît quand même assez difficile à imaginer parce que ça fait 16 ans d'attente, c'est vraiment long pour le temps d'une famille. Puis il faut aussi avoir réussi à conserver cette image. Il y a une autre hypothèse qui est un peu plus probable, qui nous vient plutôt du vendeur. Peut-être avait-il fait imprimer un très grand nombre de cette image en pensant écouler son stock progressivement. Il l'a moins bien vendu que ce qu'il avait imaginé, et donc 15-16 ans après avoir commandé la gravure au graveur, il continue de la vendre. L'autre hypothèse qui, à mon avis, est la plus probable, c'est plutôt que le bois qui a été gravé en 1603 a continué de servir pendant plusieurs années pour réimprimer des estampes du fait du succès de cette image. Les images les plus récentes sont du début du 19e. Celle-ci, c'est la plus récente vraiment datée. Elle représente un Charles Borromée. Et l'inscription qu'on a en partie basse nous donne la famille de graveurs qui l'a produite. C'est la famille Basset. On a même leur adresse rue Saint-Jacques à Paris. Et surtout, elle mentionne la direction générale de l'imprimerie, qui est une institution de censure impériale, qui a été créée en 1810 et qui a été supprimée en 1815, ce qui nous donne une fourchette assez étroite pour cette estampe entre 1810 et 1815. Il est possible qu'on ait quelques estampes un peu plus tardives, peut-être des années 1830 ou 1840, mais on n'a pas de date mentionnée directement sur l'image. Donc vous voyez, ça nous fait à peu près trois siècles d'estampes collées progressivement par cette famille Peraz. Le caractère progressif, on le voit aussi très bien par le fait que les images se superposent très rarement. Elles sont plutôt collées côte à côte, en respectant finalement ce que les générations précédentes ont fait. Ça nous montre que ces images avaient une certaine valeur pour la famille. Ça n'est pas juste un bien de consommation qu'on recouvre, ou qu'on arrache, ou qu'on jette. On essaye de le conserver, de le transmettre aux générations suivantes. J'ai un seul cas où je pense qu'il y a une dégradation volontaire. Vous voyez ici un portrait d'Anne d'Autriche. et il devait se poursuivre, puisque vous avez le début de l'encadrement ici. Donc on devait avoir son pendant à gauche, et vu le type de représentation, c'était très probablement le portrait de son mari, c'est-à-dire Louis XIII, qui aurait été arraché à un moment. Alors, en Maurienne, vous allez forcément être d'accord avec moi, on a quelques bonnes raisons d'en vouloir à Louis XIII et éventuellement à ses successeurs pour les nombreux passages de troupes qu'a connu la Maurienne. Notamment en 1629, quand Louis XIII va remporter la bataille du Pas de Suse de l'autre côté du Cône. C'est une bonne raison d'en vouloir à Louis XIII et par la suite les autres occupations et passages de troupes posent les mêmes questions. C'est que déjà on a les impositions exceptionnelles et je vous ai dit, la famille Peyrase, c'est fort probablement une des familles les plus influentes de Bessan, donc des plus riches. Si une armée passe et demande une imposition exceptionnelle, elle est répartie en fonction de la richesse des habitants. Donc, la famille Peyrase a dû être très imposée. Et personne n'aime payer de l'impôt à une armée étrangère, donc j'imagine assez bien que de rage, le propriétaire de la maison arrache le portrait de Louis XIII. Mais on peut imaginer la même chose avec le passage des armées sous Louis XIV, la représentation du roi de France, quel qu'il soit, n'était plus tout à fait bienvenue. Évidemment, le passage des armées, c'est aussi des moments de pillage, de viol, de meurtre, assez fréquents pendant toute l'époque moderne. Cette hypothèse, pour moi, elle va aussi du fait que l'image de Louis XIII a été remplacée par cette image, dont je vous reparlerai tout à l'heure, et par une petite représentation de la fuite en Égypte, qui est très probablement une image du XVIIIe siècle. Donc vous voyez la Vierge qui est assise, enfin qui chevauche son âne, et derrière une représentation de Saint-Joseph. De manière générale, la répartition des images ne nous paraît pas très évidente. On les a probablement juste collées les unes à côté des autres. On ne peut pas dire qu'à un endroit, on a toutes les images religieuses, à un endroit, on a plutôt des images politiques. Tout ça a l'air d'être plutôt mélangé. Il y a quand même un ensemble d'estampes assez marquants. Ce sont les Arma Christi, c'est-à-dire la représentation symbolique du Christ. Elles sont souvent juxtaposées par série. Alors, c'est un type de représentation qui repose d'abord sur le monogramme du Christ, IHS, pour Jésus, sauveur du monde, sauveur des hommes, accompagné des instruments de la Passion. Donc, on a très souvent la couronne d'épines, mais on peut avoir aussi l'échelle qui a servi à la crucifixion, la colonne à laquelle le Christ a été attaché pour la flagellation. Sur celle-ci, on a aussi une lance avec à l'extrémité l'éponge avec la boisson vinaigrée. On a quelquefois le cœur du Christ également, les clous de la crucifixion. Ces images, elles ont été beaucoup étudiées par plusieurs chercheurs en Europe occidentale. Et leur hypothèse, c'est qu'à l'époque moderne, elles jouent un peu le rôle d'une image que vous connaissez peut-être pour la Méditerranée, qui est l'œil porte-bonheur, l'œil qui chasse le mauvais œil. Bien, il est très probable que ces Arma Christi jouaient le même rôle. En les collant sur les parois de la maison, on demandait la bénédiction de Dieu sur la maison et sur ses habitants, ce qui expliquerait leur très grand nombre dans la maison et le fait qu'elles soient aussi reproduites de manière beaucoup plus simplifiée, mais ici, à côté de la date qui mentionne le début de la construction de la maison, on retrouve IHS avec la croix, ce qu'on retrouve également ici. Donc probablement un usage de bénédiction pour la maison pour ces Arma Christi. Donc cet ensemble d'une soixantaine d'estampes, c'est le seul qu'on connaisse en Europe. C'était l'usage le plus habituel. On en a des représentations. Il y a des peintres de nature morte qui jouent avec des illusions qui nous en représentent. Mais aujourd'hui, on n'en connaît pas d'autres exemples qui soient parvenus jusqu'à nous. Parce que, évidemment, on change de goût, donc les intérieurs, on les réaménage. Donc les images qu'avaient collectées nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et au-delà, on les remplace par autre chose. Parce qu'ensuite, également, l'usage des estampes a changé. On les a plutôt présentées encadrées, sous verre, que collées directement. Donc tous ces éléments font qu'on ne les a pas gardés. Et là où je suis à peu près certain que c'est le seul cas en Europe, c'est que ces images ont fait l'objet d'un colloque en 2013 à Épinal, qui est une grande ville de l'image, bien sûr. Donc un colloque européen où tous mes collègues européens étaient stupéfaits par cet ensemble. C'est-à-dire qu'ils n'en connaissaient pas d'autres. Ce qui est conservé ailleurs, ce sont des meubles qui portent des images, des coffres, des armoires, des petites boîtes également, mais jamais des éléments d'architecture comme celui-ci. Donc c'est vraiment un témoignage absolument exceptionnel. La plupart des images dont je vais vous parler sont aussi des images uniques. C'est-à-dire qu'on n'en connaît pas d'autres exemplaires. Alors, comment sont-elles arrivées jusqu'à la maison ? Il y a un premier ensemble d'estampes qui est très probablement la trace des pèlerinages auxquels ont participé les habitants de la maison. Alors quand je dis pèlerinage, il ne faut pas imaginer que c'est nécessairement comme le pèlerinage à Lourdes aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le voyage qui a uniquement pour but de visiter un sanctuaire. Ça peut tout à fait être « je vais dans une ville à l'occasion d'un marché et j'en profite pour visiter un sanctuaire de pèlerinage et en ramener une image ». Premier sanctuaire, c'est l'image par laquelle je commençais, c'est le sanctuaire de Vicoforte, à Mondovì, donc on est dans le sud du Piémont. Le sanctuaire commence à cause de cette image miraculeuse. Le miracle, c'est en 1592, un chasseur qui s'aventure dans un bois à côté de Mondovì, tire par inadvertance sur cette image, qui était au fond de la forêt, et l'image se met à saigner. 1592, ça tombe plutôt bien pour le duc de Savoie, puisque Charles-Emmanuel Ier soumet Mondovì l'année d'après. Et donc il va utiliser cette image miraculeuse pour asseoir son pouvoir sur la ville. Il décide de construire un très grand sanctuaire pour en faire un sanctuaire dynastique et abriter cette image miraculeuse. Donc, symboliquement, en fait, il s'approprie cette image miraculeuse pour montrer que désormais, le duc de Savoie est chez lui à Mondovì. Alors, vous pouvez le visiter, ce sanctuaire. Les travaux n'ont pas été achevés, parce que Charles-Emmanuel Ier est mort trop tôt. C'est seulement au XIXe siècle que le sanctuaire est terminé. Mais c'est un lieu important qui explique aussi qu'on ait diffusé des images, qu'on ait créé une liturgie autour de cette image miraculeuse. Et la gravure produite par Henrietto de Rossi s'inscrit en fait dans cette volonté politique d'asseoir la réputation du sanctuaire. Et là, vous voyez bien à quel point il s'inspire précisément de l'image miraculeuse. Un souvenir de pèlerinage probable, mais moins certain, c'est cette image de Saint-Bernard de Menton, d'Aoste, ou des Alpes, comme vous voulez. On le reconnaît très bien, bon, déjà parce qu'on a l'inscription qui nous le dit, mais il est aussi habillé en chanoine avec son homus, et il est en train de terrasser un démon, un dragon. Et tout autour, nous avons une série de vignettes qui montre des éléments de sa vie, mais surtout des miracles qu'il a accomplis, qui sont en fait aussi toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir d'invoquer Saint-Bernard. Quand on regarde toutes les vignettes qui sont représentées, ça nous donne bien l'impression d'un saint qui sert à peu près à tout, et notamment à des choses très utiles dans un monde agro-pastoral, mais très utile aussi maintenant. Il est très bon pour tous les phénomènes météorologiques, si on regarde les images. Donc, en cas de crue, de grêle, et donc je pense de changement climatique, c'est un saint très efficace. Donc, mon hypothèse, c'est qu'elle a tout à fait pu être rapportée des deux cols qui portent le nom du saint ou d'Aoste par les habitants de la maison. C'est aussi une image avec une circulation un peu compliquée, puisque c'est un bois gravé, mais qui reproduit une gravure sur cuivre qui est signée par la famille Ziegler, qui est une famille de graveurs allemands. Ce qui est un élément intéressant de diffusion de cette image, dont on ne connaît pas d'exemplaires vraiment identiques, mais il y a eu d'autres graveurs qui ont fait des bois pour s'inspirer de cette première gravure du XVIe siècle. Dernière image de pèlerinage possible, c'est cette image qui vient du sanctuaire du Corpus Domini de Turin. Là, c'est un autre miracle. En 1453, un voleur s'empare d'objets liturgiques dans une église et emporte au passage une hostie. Il met tout dans son baluchon, il le met sur son âne, et au moment où il s'apprête à quitter Turin, l'hostie sort miraculeusement du baluchon, se met à voler et ne s'arrête qu'au-dessus du calice de l'archevêque de Turin qui est en train à ce moment-là de dire la messe. Et donc l'hostie miraculeuse devient le cœur d'un pèlerinage qui est très mis en valeur par l'Église catholique, qui aime bien, à partir du XIVe siècle, mais surtout de la fin du Moyen-Âge, les miracles liés aux hosties, puisque c'est une manière d'affirmer très fortement la présence réelle du Christ dans l'hostie. Et donc c'est déjà vrai à la fin du Moyen-Âge, ça sera encore plus avec la réforme protestante, puisque la réforme protestante a, entre autres, remis en cause la présence réelle du Christ dans l'hostie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette église du Corpus Domini de Turin est une des plus belles églises baroques de la ville. Cette image, donc, qui provient de ce sanctuaire, elle est produite par une confrérie dont on a le nom ici, la confrérie du Saint-Sacrement. Et la visite du sanctuaire apporte des indulgences. C'est ce que nous mentionne en fait tout le texte qui est l'essentiel de l'image. Donc on peut tout à fait imaginer les habitants de la maison se rendant à Turin, par exemple pour y faire du commerce, et achetant au passage cette image. Alors je vous ai dit un mot d'indulgence, là on en est encore plus sûr, et ça n'est pas un voyage des habitants de la maison, là c'est les bonnes raisons qu'on a de passer à Bessan à l'époque moderne. Donc la première, c'est cette bulle d'indulgence. Vous voyez, c'est très nettement marqué dessus. Au sommet des indulgences, on a une représentation de la Vierge entourée de saints, que vous reconnaissez à leurs auréoles, avec un personnage agenouillé avec une partie en hermine, donc qui est un prince. C'est une manière de rappeler l'importance de l'intercession de la Vierge et des saints, puisqu'on a le fidèle qui prie et qui ainsi peut toucher Dieu représenté par la colombe du Saint-Esprit. C'est le mécanisme essentiel des indulgences. Pour qu'une indulgence soit efficace, il faut qu'on s'assure qu'elle a été donnée par une autorité ecclésiastique compétente. Alors là, on peut être tout à fait rassuré, puisque vous voyez les premières armoiries ici, qui sont celles de Clément IX, dont le pape qui décerne des indulgences, tout va bien, ce sont des indulgences qui fonctionnent. Et à droite, nous avons les armes de Charles-Emmanuel II, duc de Savoie. Alors c'est pas parce que c'est lui qui accorde les indulgences, c'est parce que pour que des quêteurs d'indulgences puissent en vendre sur un territoire, il faut que l'autorité souveraine soit d'accord. Donc tout va bien. Il y a un risque quand même important si vous décidez d'acheter des indulgences, c'est qu'il y a beaucoup de faux vendeurs d'indulgences. C'est assez facile d'imprimer une indulgence et hop, d'aller vendre comme aujourd'hui on pourrait vous vendre une police d'assurance ou des nouvelles fenêtres pour chez vous. Et on a fait la même chose avec les indulgences. Donc là, on est vraiment sûr que tout va bien sur des indulgences officielles. En plus, le texte nous le rappelle en nous disant que Hercule Berzé, évêque de Saint-Jean-de-Maurienne, et accorde à deux quêteurs d'indulgence le droit de venir quêter dans le diocèse. Alors, il ne l'accorde pas de manière définitive. C'est pour un temps déterminé. Et là, ça nous rappelle que on est très sollicité, à l'époque moderne, par des ecclésiastiques. Il y a des ordres qui sont spécialisés dans le fait d'obtenir de l'argent de la part des fidèles, ce sont les mendiants, mais de manière générale, il faut que l'évêque veille à ce qu'il n'y ait pas trop de concurrence entre les différents religieux. On a des cas assez fréquents de procès entre ordres religieux pour se battre pour ce type de revenu. Donc là, il accorde à ces deux quêteurs d'indulgence le droit de venir dans son diocèse, mais sur un temps bref, pour éviter cette concurrence trop forte. Ces quêteurs d'indulgence, ils viennent de Rome. Et la bulle d'indulgence nous dit que c'est pour construire le sanctuaire de Santa Maria del Pianto, qui est une église que vous pouvez toujours voir à Rome, qu'ils viennent dans le diocèse. Ils se placent aussi sous la protection d'une autre image miraculeuse, celle de Notre-Dame du Pilier de Saragosse. Donc on est vraiment au cœur de l'Europe ici. Vendre des indulgences pour construire une nouvelle église, c'est quelque chose de classique. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la basilique Saint-Pierre de Rome, qui a été financée par les indulgences, et c'est une des causes de la réforme protestante, puisque lorsque Luther publie ses 95 thèses, donc on est vraiment au tout début de la réforme, il s'attaque en particulier au fait que le pape puisse vendre des indulgences, et d'autant plus pour construire un bâtiment comme la basilique Saint-Pierre. Vous voyez au passage quand même que les habitants de la maison étaient très fiers d'avoir acheté des indulgences, puisqu'ils les affichent dans la maison. Autres religieux qui passent à Bessin, ce sont les missionnaires. Alors il ne faut pas imaginer les missionnaires comme ceux qui, au XIXe siècle, vont évangéliser les colonies françaises. Ici, c'est un mouvement qui part du Concile de Trente, qui est très mis en avant par le Concile de Trente. Le constat de l'Église catholique, c'est que si une partie des fidèles sont passés à la Réforme, c'est que l'encadrement religieux n'était pas suffisant. Beaucoup de fidèles n'avaient pas une grande idée du catéchisme, et donc il faut les réévangéliser pour pouvoir les garder dans le giron de l'Église catholique. Et quelques ordres se spécialisent dans cette réévangélisation de l'intérieur sous forme de mission, notamment les capucins. Ici, nous savons que c'est une image diffusée par une mission de capucins, par la mention qu'on a ici, d'un général des Capucins. Alors ici, on a un tout petit bout de son nom, mais j'en ai pas trouvé assez pour réussir à trouver qui c'était. Et on a aussi la représentation du Capucin, bien reconnaissable à sa capuche. Le fonctionnement des missions, c'est plusieurs religieux qui s'installent dans une paroisse pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, et qui poussent les habitants de la paroisse à faire des exercices spirituels, donc prier collectivement, se confesser, assister à des messes, assister aussi à des homélies. Il peut y avoir des moments un peu symboliques au cours de ces missions, comme des processions, mais aussi l'érection de croix ou de calvaires, comme vous en voyez encore assez fortement dans le paysage, même si souvent ce sont des croix qui sont plutôt du XIXe siècle que pour des périodes plus anciennes. Cette image, elle a l'avantage de nous montrer vraiment concrètement comment fonctionne une mission, puisque ici on a le missionnaire capucin, et ici vous avez tous les fidèles qui sont agenouillés et qui écoutent avec grande piété l'homélie du capucin. Et pour cette homélie, il s'appuie sur une image que vous voyez ici, et qui reprend essentiellement les instruments de la Passion qu'on voyait tout à l'heure sur les armes à Christi. Alors là, ça paraît un peu sage, et pour certains, ça pourrait même paraître ennuyeux. Il faut aussi se remettre dans l'ambiance de l'époque moderne, où il y a pu avoir du théâtre sous forme de mystère à Bessin, mais c'est quand même des moments exceptionnels. Et avoir un spécialiste de la prédication qui vient vous voir, c'est vraiment un grand moment de théâtre. c'est des formes beaucoup plus spectaculaires que celles qu'on connaît aujourd'hui comme homélie. Il faut vraiment l'imaginer avec, face à un public qui n'a pas l'habitude d'orateurs de grande qualité et qui peut utiliser toutes sortes d'accessoires comme cette image en est la preuve. Alors il n'y a pas que les capucins qui font des missions, même si ce sont les plus importants, en particulier en Savoie. Ici on a une autre image qui est un peu frustrante, mais qui nous parle des révérends pères de la mission, qui sont les auteurs de ce cantique spirituel. On peut avoir les jésuites qui font des missions aussi et qui sont actifs sur le territoire. Alors on n'a pas que des religieux qui passent à dessein. Et ici, c'est une image beaucoup plus politique. Elle nous dit que c'est une prédiction véritable. Alors c'est une prédiction un peu facile, puisqu'elle est faite le 11 janvier 1619, qui est le jour où est signé le contrat de mariage entre Victor Amédée, qui est le prince héritier du duché de Savoie, et Christine de France. Et la prédiction nous annonce qu'ils vont se marier. Donc voilà, c'est pas trop posé. Le mariage a effectivement lieu le 10 février 1619. L'auteur de cette prédiction, c'est Guy Marchand. On n'est pas sûr du prénom, mais c'est probable, dont on ne connaît que cette œuvre. Alors on peut se dire que c'est très probablement un poète, parce que toute sa prédiction est versifiée. Pas un poète de premier plan non plus, parce que sinon on en aurait gardé des traces dans d'autres documents. Et en lisant ces vers, voilà, c'est pas non plus complètement renversant. Mais en tout cas, il est très probablement meilleur poète qu'astrologue, puisque quand on regarde les mentions astrologiques qu'il y a dans cette prédiction, il n'y a quand même vraiment pas grand-chose. Alors que pourtant, c'est une tradition solidement ancrée au début du XVIIe siècle de dresser des horoscopes pour les personnages importants, les membres de familles royales ou princières, dans des occasions particulières. Un bon exemple, c'est Christine de France, justement, lors de sa naissance le 10 février 1606, elle a le droit à son horoscope dressé par l'astrologue royal. Donc ici, on est dans cette ambiance de pratique assez courante de l'astrologie, mais fait par un genre de second couteau. L'image aussi, même si au premier abord, c'est une image qui fait un peu moins populaire que d'autres images que je vais vous montrer, parce que c'est un cuivre et non un bois gravé, avec des représentations de différents saints de l'Église universelle, une nativité au milieu. Mais ces deux lacunes montrent qu'on est probablement dans un remploi. C'est-à-dire qu'on a changé le texte en gardant la gravure sur cuivre. Et si on a découpé ici ces deux zones, c'est qu'on avait probablement les armoiries d'un autre couple pour un autre mariage. Et que plutôt que de retoucher les cuivres, on imprime et on découpe ensuite. Ce qui nous fait une image à peu de frais. C'est une image vraiment très intéressante parce qu'on n'en conserve quasiment pas de ces prédictions, dont on sait qu'elles étaient assez courantes. Mais il faut vraiment imaginer une feuille volante qu'on garde quelque temps, juste le temps de l'événement, et ensuite on la jette. Donc c'est vraiment un document assez exceptionnel. Alors comment a-t-elle pu arriver à Besson? L'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit à l'occasion du passage de Christine de France, puisque le mariage se fait par procuration, comme c'est le plus souvent le cas dans les familles princières à l'époque moderne. Mais ensuite, l'arrivée de la jeune mariée se fait par des grandes cérémonies progressivement. On a aussi des réjouissances populaires. Vu que je suis à Saint-Jean-de-Maurienne, j'en profite. Le conseil de ville de Saint-Jean-de-Maurienne vote le 11 janvier 1619 un feu de joie pour célébrer ce mariage. Mais surtout, le moment d'accueil symbolique de cette princesse française par le duc de Savoie se fait au col du Mont-Cenis. Et là, c'est vraiment une occasion assez unique, même dans l'histoire des États de Savoie, c'est qu'il y a vraiment des festivités très importantes qui sont mises en scène au col du Mont-Cenis pour symboliser le fait que le duc maîtrise les Alpes. Donc c'est une fête avec une scène, avec des décors. Il y a notamment un ballet qui est donné au col du Mont-Cenis. Et c'est difficile d'imaginer que tout cet événement n'ait pas eu de répercussion à Bessan, parce qu'on est quand même relativement proche du col du Mont-Cenis, il a fallu loger tout ce monde-là. Et c'est probablement à cette occasion qu'une faille comme celle-ci a pu arriver jusqu'à la maison. Mon hypothèse, c'est qu'on a tout à fait pu diffuser également ce double portrait royal, ce qui expliquerait qu'on a un portrait français ici. Voilà, on est dans cette ambiance de rapprochement diplomatique, et il faut imaginer donc tous ceux qui pouvaient suivre Christine de France et qui ont pu diffuser ce type d'image. Alors cette image aussi, elle pose un peu problème, parce que si vous avez des images d'Anne d'Autriche, elle ne ressemble pas tout à fait à ça dans les images qu'on a le plus souvent. Alors on pourrait se dire que c'est au moment de son mariage, en 1615, et donc on la connaît plutôt comme veuve et beaucoup plus âgée. Mais il y a quand même quelques indices un peu embêtants. Alors vous voyez ici qu'elle a une fraise très généreuse qui monte largement derrière la nuque et qui a une dentelle très ajourée. Si vous avez en tête des portraits d'Élisabeth Ière d'Angleterre, c'est un peu ce type de fraise très somptueuse, très opulente. Autre détail de son vêtement, vous voyez que son vertu gadin descend en triangle devant le buste. Donc c'est un type de corset, de buste un peu particulier. Et quand on regarde ce à quoi elle ressemblait à son mariage, donc, vous voyez qu'on n'a pas du tout le même type de fraise, donc c'est une grande fraise, mais beaucoup plus simple, et qui ne remonte pas derrière la nuque, et surtout, elle n'a pas du tout le vertu gadin qu'on vient de voir. Et quand on regarde un peu plus tard, puisque on pourrait se dire que c'est pas en 1615 lors de son mariage, mais en 1619 qu'elle est représentée, là, vous voyez, on est un petit peu après, on est en 1622, on est à nouveau très loin de ce qu'on vient de voir sur l'image, c'est-à-dire qu'on a un décolleté, alors c'est pas encore le décolleté très généreux du XVIIIe siècle, hein, c'est un décolleté quand même très raisonnable, et avec un très grand col en dentelle, mais qui n'est pas du tout une fraise, et on n'a plus le vertu gadin non plus. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on ait aussi une réutilisation. On prend une image qui a été faite pour le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis, parce que là, quand vous voyez Marie de Médicis, vous voyez sa fraise, elle est vraiment très proche de celle qu'on vient de voir, et on retrouve le vertu gadin qui descend en pointe en bas du buste. Donc là aussi, on change juste les lettres, et on remplace Henri IV et Marie de Médicis par Louis XIII et Anne d'Autriche. Alors, bien sûr, quand on parle de déplacement en Savoie, et surtout avec des images, ce qui vient tout de suite, c'est les colporteurs. Alors, dans toutes les images que je vous ai montrées, il n'y en a pas une dont on n'est pas sûr qu'elle n'ait pas été apportée par un colporteur. Je vous ai donné des hypothèses, mais on n'a pas de certitude. J'ai quand même un ensemble de 6 estampes où je m'approche de la certitude sur le fait qu'elles soient bien arrivées par des colporteurs. Ce sont des estampes produites par Laurent Biès. Laurent Biès, dont vous voyez la signature ici. Alors, ce qui est bien avec les images du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est souvent les signatures sont assez abondantes. Donc, on a son adresse au fond de Jacques Potard, rue Ferrandière. Et sur les autres, on a la suite vis-à-vis le Mai à Lyon. Donc, cette inscription nous dit que Laurent Biès a récupéré l'atelier de Jacques Potard et qu'il est rue Ferrandière à Lyon. C'est une rue qui existe toujours dans le 2e arrondissement, à peu près à mi-chemin entre la place Bellecour et la place des Terreaux. J'ai pas trouvé ce que c'était que le Mai, et ça viendra peut-être. De toute façon, c'est pas une rue très longue, donc si vous voulez aller en pèlerinage à l'atelier de Laurent Biès, c'est toujours possible. Alors, qu'est-ce qu'il produit comme image et qui arrive dans cette maison? Vous voyez un premier cantique spirituel en l'honneur de Saint Crépin et Crépinien. Vous en voyez un des deux ici. Crépin et Crépinien, ils ont une dévotion assez répandue dans toute l'Europe occidentale. Ce sont les patrons des tanneurs, des cordonniers, des courroyeurs. Autre image beaucoup plus fragmentaire. Encore un entretien spirituel et on retrouve la même signature que tout à l'heure. Celle-ci est encore plus fragmentaire, il en reste 3 cm par 3 à peu près, mais on a encore la signature de Laurent Biès, c'était probablement une image du Saint-Sacrement. Celle-ci, qui est beaucoup mieux conservée, est à nouveau bien signée Laurent Biès, nous avons ici à nouveau Laurent Bies, cette fois-ci pour un cantique en l'honneur de l'Assomption. Donc on a l'inscription qui nous le dit, et là on voit la Vierge qui est en train de s'élever. C'est une iconographie un peu complexe, puisque en même temps qu'elle s'élève, elle est couronnée par Dieu le Père et le Christ, et on a aussi le Saint-Esprit ici. Donc c'est un mélange entre l'Assomption et le couronnement de la Vierge. Et la dernière de cette série de Laurent Bies, c'est une représentation de la Sainte Famille, avec la Vierge qui est en train de filer, aidée par le Christ, et derrière on a Saint-Joseph à son atelier de charpentier. Alors pourquoi est-ce que je pense que les images de Laurent Bies sont arrivées par des colporteurs ? C'est qu'on sait que Laurent Bies a eu des procès avec des colporteurs. Alors malheureusement pour nous, c'est des colporteurs devenus dits. J'aurais bien aimé qu'ils soient savoyards, mais bon, à défaut, on sait quand même qu'il a coulé une partie de son stock par des colporteurs. On peut aussi penser que, puisque je vous ai dit que dans les propriétaires de la maison, il y avait eu des commerçants, des marchands, bah, peut-être qu'eux aussi ont un réseau de colporteurs, ou travaillent avec des colporteurs. En tout cas, ces six images, pour moi, sont très probablement arrivées par ce biais-là. Alors, pour vous illustrer un peu la rareté des images dont je vous parle, Laurent Bies, aujourd'hui, on en connaît 9 images. Vous venez d'en voir 6. Les 3 autres, c'est une chute, Adam et Ève chassés du paradis, la naissance d'Ève et un jeu de loi. Dans la variété de ce qu'il produit, vous voyez les images comme celle-ci qui sont des bois, il les rehausse généralement d'assez peu de couleurs, et on a juste un cuivre gravé ici. Et ça, ça vient très probablement de l'atelier qu'il a récupéré. Alors, c'est quelque chose d'assez classique. Pour s'installer, généralement, il faut hériter. Alors, lui n'hérite pas. Mais il le fait presque, c'est-à-dire qu'il épouse une veuve. C'est un moyen vraiment très classique d'avoir un atelier dans une ville. Donc, il épouse la veuve de Jacques Potard. Alors, la veuve, elle était dans une situation très favorable. C'est le seul cas où une femme sous l'Ancien Régime peut être à la tête d'un atelier. Quand elle est jeune fille, elle ne le peut pas. Quand elle est l'épouse d'un homme vivant, ça ne marche pas non plus. Mais comme veuve, elle peut avoir une activité économique en son nom propre. La plus célèbre de toutes dans ce cas-là, c'est probablement la veuve Clicquot. Mais là, la veuve de Jacques Potard n'a pas fait le même choix, et donc elle épouse Laurent Bies. Leur mariage a lieu en 1619, donc c'est le début possible pour la production de ces estampes, et 1713, c'est la mort de Laurent Bies. Ce qui est très bien, c'est que Jacques Potard, il est mort en 1677, et il a eu un inventaire après décès. Et c'est évidemment une source passionnante, qui nous dit que dans son atelier, il y avait 68 cuivres gravés et 16 bois. Ce qui donne vraiment l'impression de la continuité de production entre Jacques Potard et Laurent Bies. D'où viennent les images? J'ai commencé à vous promener un peu, on va aller plus loin. Ici, c'est Milan. Alors Milan, c'est comme pour Laurent Bies, on a la signature qui nous dit tout. L'auteur, c'est Pietro Paolo Panza. C'est la seule œuvre qu'on connaisse de lui. Et il est Contrada dei Mercanti, donc rue des Marchands, vicino al Duomo, à côté de la cathédrale de Milan. C'est une image qui est assez intéressante parce que théologiquement, elle est assez complexe. Vous voyez le Christ en croix, dont le sang coule du côté, et est recueilli par un ange dans un calice. Donc ça, c'est, comme mon hostie miraculeuse de tout à l'heure, une manière d'insister sur la présence réelle. Le vin et l'eau contenus dans le calice deviennent réellement le sang du Christ lors de l'Eucharistie. Et ensuite, il le rejaillit sur ces pauvres malheureux au milieu des flammes ici, qui sont les âmes du purgatoire. Le principe du purgatoire, c'est que plutôt que d'être condamné à l'enfer directement ou d'entrer au paradis directement, à notre mort, on est dans un stade intermédiaire qui n'est pas un endroit sympathique, comme vous pouvez le voir. Et à cette étape-là, les vivants peuvent prier pour nous pour raccourcir notre durée de purgatoire. Ils peuvent aussi acheter des indulgences pour raccourcir cette durée. ce mécanisme est présenté ici, puisque vous voyez un personnage féminin qui est en train de prier. Donc en fait, il invoque le Christ pour réduire la durée de purgatoire, des âmes du purgatoire. Et c'est le sang du Christ qui les sauve, et il les sauve puisque vous voyez ici un ange qui emporte un personnage emmailloté, donc le défunt, pour l'amener à Dieu le Père, qui est donc la porte du paradis. Donc sur une même image, on a le dogme de la transsubstantiation et l'efficacité de l'intercession pour les âmes du purgatoire. Autre provenance, alors je vous ai déjà montré un autre graveur lyonnais, ici c'est Claude Audran, qui est originaire de Paris. C'est une dynastie de graveurs qui produit dans l'ambiance de la cour. Donc, on n'est pas loin du top de ce qu'on peut avoir comme graveur au XVIIe siècle. Mais Claude Audran, lui, s'installe à Lyon. Et ici, il représente, donc c'est un cuivre gravé, Saint-Joseph avec la Vierge et l'enfant. C'est le repos pendant la fuite en Égypte. Alors tout à l'heure, je vous ai montré le geste peut-être rageur de l'habitant de la maison qui arrache Louis XIII. N'imaginez pas qu'ici, on ait un iconoclaste qui ait voulu se débarrasser de la Vierge et de Saint-Joseph. C'est juste que cette image se trouvait dans la partie supérieure de la cage d'escalier. Et le haut de l'image était collé sur la poutre qui n'a pas été prélevée. Et donc, lorsque le musée a démonté la cage d'escalier, ils n'ont pas réussi à enlever le haut de l'image. Et c'est comme ça qu'on a perdu les deux têtes. Et donc, pour cet horizon géographique, on a déjà vu Turin, Mondovie et Paris, qui vous donnent un peu l'aire de provenance de l'ensemble de ces images. Alors, je vous propose maintenant d'entrer dans certaines d'entre elles pour vous prouver que Rubens arrive à descendre. Alors, vous retrouvez ici l'image de Laurent Biesse, dont je vous ai déjà parlé deux fois. Cette image représente la Sainte Famille et elle s'inspire directement d'une gravure des Pays-Bas de Schelte à Bolsvert. Alors, la manière dont elle s'en inspire, vous le voyez par la pose de la Vierge, mais vous voyez aussi le geste du Christ, le geste également de Saint-Joseph qui montre son Fils. On retrouve le Saint-Esprit, Dieu le Père qui ouvre les bras de la même manière. On a quand même évidemment des dissemblances, puisque le bois gravé simplifie toujours beaucoup l'estampe savante. Alors vous le voyez dans la manière de représenter le sol, ici on était plutôt dans une version en plongée, là on est de profil. On avait un arbre pour animer le paysage qui a disparu. Ici on avait beaucoup d'anges, sur le bois gravé c'est un peu moins généreux en anges. Mais on garde vraiment la structure générale, l'attitude des personnages, et qui est donc un mélange entre la Sainte Famille et la Sainte Trinité. Cette image de Bolsvert, elle est très bavarde, et Bolsvert nous dit qu'il reproduit un modèle de Segers. Segers lui-même s'inspire d'une autre gravure de Bolsvert, que vous voyez ici. Alors Segers, il a été plus créatif que ce qu'on a vu de Laurent Biesse, où il y avait relativement peu de changements. Les éléments qu'il ajoute sont les anges, qui n'apparaissaient pas dans le modèle d'origine, et surtout, le bâton de Saint-Joseph devient une fleur de lys. Cette évolution s'inspire de la légende dorée, qui elle-même s'inspire d'un évangile apocryphe, l'évangile de la nativité de Marie, donc on est au 5e, 6e siècle, qui nous raconte que pour trouver un mari à la Vierge, ses parents rassemblent les héritiers de David en âge d'être mariés, et chacun de ses descendants de David apporte un bâton ou une baguette au temple de Jérusalem. Ces bâtons y passent la nuit, et le lendemain matin, est retenu pour épouser la Vierge celui dont le bâton a fleuri. Et c'est comme ça que Saint-Joseph épouse la Vierge. La légende dorée nous parle d'un bâton fleuri sans vraiment préciser le type de fleur. Le fait d'avoir choisi une fleur de lys est très certainement un rappel d'un autre épisode de la vie de la Vierge qui est l'Annonciation, où l'archange Gabriel annonce à la Vierge qu'elle va enfanter. Et dans les représentations habituelles depuis le Moyen-Âge, la fleur de lys apparaît au premier plan pour symboliser la virginité de la Vierge. Donc, d'une image qui était le retour de la Sainte Famille d'Égypte après la fuite en Égypte, Segers a fait une image de la Sainte Famille par excellence. On n'est plus nécessairement au moment du retour de la fuite en Égypte. Par une seule image, finalement, on montre trois épisodes différents de la vie de la Vierge. Et Bonnevert lui-même, il s'inspire en fait d'une œuvre de Rubens. Rien d'étonnant à cela, Bolzert fait partie des graveurs qui travaillent pour Rubens. Rubens, il faut vraiment le voir comme un entrepreneur avec un solide sens du commerce. Donc il a un atelier très généreux, il a beaucoup de peintres qui travaillent avec lui, ce qui lui permet de répondre à des commandes très nombreuses, mais en plus il le fait savoir. Et presque systématiquement, il fait publier ses œuvres en gravure pour les diffuser très largement. C'est une peinture qu'on peut voir à nouveau depuis une dizaine d'années dans l'église Saint-Charles-Borromée d'Anvers, à nouveau puisque pendant 250 ans, elle a navigué dans différents musées, notamment au Metropolitan Museum, avant d'être rachetée par l'église assez récemment. Le succès de cette image est tel que nous n'en avons pas une seule dans cette maison de Bessin, mais trois. Vous voyez la deuxième ici. Alors, qui est beaucoup plus simplifiée que celle de Laurent Biès, mais vous retrouvez le Christ avec le même geste du bras, la Vierge et Saint-Joseph, le Saint-Esprit, Dieu le Père. Il y a une modification assez significative qui est qu'elle est inversée. Ça, c'est un processus habituel en gravure, puisque le plus simple pour reproduire une gravure, c'est de la coller sur le bois. Ensuite, on grave directement à travers la gravure. Puis on enlève les résidus de papier, on encre, on pose la feuille et on obtient un effet de miroir. Cette image, elle provient peut-être de Savoie, peut-être de Saint-Jean-de-Maurienne, peut-être aussi de Lyon, à cause de la manière de dénommer Joseph. Vous voyez Jésus, Maria, et ici, c'est Josette avec un T. C'est une déformation du prénom Joseph qui est attestée par d'autres sources en Savoie, notamment dans certaines chansons ou vaudeville de la fin du XVIIIe siècle. Et ça, c'est un indice d'une provenance dans le domaine linguistique franco-provençal. C'est pour ça que la Savoie est un lieu probable, Lyon est aussi possible. Et de cette image, on a un deuxième exemplaire que vous voyez ici, donc qui montre vraiment le très grand succès de ces images inspirées de Rubens. Alors après, il ne faut pas s'imaginer que les habitants de Bessan savaient qui était Rubens ou avaient acheté l'image en pensant à lui. C'est juste une bonne illustration de la manière dont cet imaginaire iconographique se diffuse dans toute l'Europe. Alors, c'est la dernière fois que je vous parle de cette image de Laurent Biès, parce qu'on l'aura vue vraiment sous toutes les coutures. Elle nous montre un autre type de diffusion, puisque c'est une image pieuse, donc on a un cantique dédié à la Vierge et à la Sainte-Chapelle. Mais vous voyez la mention qu'il y a en haut, qui nous dit sur quoi chanter le cantique. Et c'est sur l'air de « Prenez mon cœur et n'en prenez point d'autre ». Autant vous dire que l'air de départ n'est pas vraiment un cantique ou un chant empli de pensées pieuses, c'est vraiment de la musique légère qui est composée par Roland de Lassus, donc un des grands compositeurs européens du XVIe siècle, qui travaille dans différentes cours européennes et qui fait de la musique religieuse, évidemment, mais qui fait aussi beaucoup de musique de cour et parfois de musique assez grivoise, comme c'est assez fréquent dans les cours du XVIe siècle. Le mélange entre musique légère et musique religieuse n'est pas une invention de Laurent Biès. C'est un phénomène assez courant. À la cour de Savoie, par exemple, sous Amédée VIII, son plus compositeur le plus important, Guillaume Dufay, compose une messe de l'homme armé. La musique qu'on appelle homme armé vient peut-être du nom de l'enseigne d'une auberge. Et donc, peut-être que le point de départ, c'est une chanson à boire au sein de cette auberge. On a aussi un autre exemple très important, c'est celui de Luther. Luther, il veut que ce soit les fidèles qui chantent et non plus des professionnels. Dans les liturgies catholiques, c'est beaucoup les chantres, les chanoines, mais les chœurs aussi qui chantent plus que les fidèles. Luther pense qu'il vaut mieux que ce soit les fidèles, et donc il va essayer de trouver des musiques que tout le monde connaît pour faire chanter les psaumes. Et il s'inspire en particulier des chants de mineurs de Saxe. Donc autant vous dire que des mineurs au XVIe siècle en Saxe ne chantent pas des cantiques très pieux quand ils sont au fond de l'anime. Donc c'est un exemple de diffusion, puisqu'on voit que la musique de Roland Biassu, musique de cour, arrive jusqu'à Messin. Une autre œuvre qui arrive jusqu'à Bessin. Alors là, je vais être moins bien que ce que je vous montrais pour Rubens, c'est que je n'ai pas toutes les étapes de gravure, mais il faut imaginer les mêmes. C'est juste que les chercheurs qui se sont penchés sur cette œuvre ne les ont pas retrouvées, et moi non plus, puisque pour cette analyse des images, je repose beaucoup sur l'exposition qui a eu lieu à Épinal autour de ces panneaux en 2016, et où de nombreux spécialistes d'estampes s'étaient penchés sur cet ensemble. Donc là, notre première étape, et il faut imaginer que c'est la deuxième, c'est le passage de l'image qu'on a ici, avec le même encadrement que la Sainte Famille que je vous montrais tout à l'heure, donc qui est peut-être savoyarde ou lyonnaise, une étape intermédiaire, et la source, c'est Murillo. Le sujet, c'est l'ange gardien, l'ange qu'on peut invoquer, donc le fidèle est représenté sous la forme d'un enfant, pour qu'il nous protège et nous guide vers Dieu. Et vous voyez que l'iconographie est vraiment sensiblement la même, on a juste le phénomène d'inversion en miroir qu'on a déjà vu tout à l'heure. Mais Murillo lui-même s'inspire, probablement par l'intermédiaire d'une gravure, de Titien, et comme on l'a vu pour Segers, il s'en inspire mais il en change le sens. Puisque pour Murillo, c'était vraiment complètement une image de l'ange gardien, alors que Titien avait fait une représentation de Tobie et l'ange, donc un épisode biblique. La grosse différence, c'est la présence du chien, le chien qui accompagne Tobie dans l'Ancien Testament. Donc là, vous voyez qu'après Rubens, on a aussi Titien et Murillo qui arrivent jusqu'à Bessin. Là, il va falloir me croire un peu plus sur parole. Troisième estampe de cette même série produite en Savoie ou à Lyon. Vous devinez ou vous voyez ici Saint Jean-Baptiste avec la croix qu'il porte de la main droite autour de laquelle s'enroule le phylactère qui mentionne Ecce Agnus Dei. Ici, l'emplacement, la trace de Dieu le Père, les rayons, on avait ici le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, et là, le début des eaux du Jourdain. Cette image s'inspire d'une gravure comme celle-ci, produite par la famille des Poilly, qui est une famille de graveurs parisiens, où vous retrouvez notre Saint-Jean-Baptiste. Alors, au passage, il a été redressé, mais avec la même hampe avec le phylactère Ecce Agnus Dei, le même emplacement du Jourdain, de Dieu le Père et du Saint-Esprit. Et cette gravure s'inspire de Mignard. Alors, pas directement de cette œuvre-là, mais puisque ce sont des graveurs parisiens, ils ne vont pas chercher leur modèle très loin, ils le prennent dans la chapelle des fonts baptismaux de Saint-Eustache. Saint-Eustache, c'est une des plus grandes églises paroissiales parisiennes, et Pierre Mignard en refait l'ensemble du décor. Le problème qu'on a, c'est que le décor de la chapelle a été complètement transformé par la suite, et donc on n'en garde aucune trace à part des gravures. Et Pierre Mignard s'inspirait de lui-même, puisqu'il avait fait quelques années auparavant, dans l'église dans laquelle il a été baptisé à Troyes, l'église Saint-Jean du Marché, une première œuvre représentant le baptême du Christ. Alors pourquoi le baptême du Christ? Parce que visiblement c'est une maison où on aime bien Saint-Jean-Baptiste. Là, donc, c'était l'estampe qu'on vient de voir. Ici, vous avez une autre image de la maison, pas du tout avec la même tradition iconographique. Vous retrouvez le baptême du Christ ici avec Saint-Jean-Baptiste la croix, le phylactère, le Saint-Esprit qui descend sur le Christ et l'emplacement du Jourdain. Et au premier plan, Saint Jean-Baptiste jeune, qui s'inspire plus probablement d'une tradition du nord de l'Italie, sans qu'on ait déterminé la source exacte. Et il est accompagné d'un agneau qui préfigure en fait l'annonce que Saint Jean-Baptiste va faire de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire du Christ. Alors pourquoi des représentations de Jean-Baptiste ? Bon, déjà, je vous l'ai dit, il y a quand même au moins 5 Jean-Baptistes dans la famille. Avoir une image de son saint patron et le prier est très mise en valeur par le Concile de Trente. Donc, ça n'est pas très surprenant. Mais à Bessan, on a des raisons encore plus fortes de prier Saint Jean-Baptiste, c'est que c'est le saint patron de l'église paroissiale. Donc là encore, on est bien dans le cadre tridentin. C'est peut-être aussi que des membres de cette famille étaient membres d'une des nombreuses confréries de Bessan. Il y en avait une dédiée à Saint Jean-Baptiste, dans l'église paroissiale, qui est attestée en 1732. Alors, dans le texte de 1732 qu'il mentionne, il est précisé qu'elle est réservée aux célibataires, ce qui est probablement la raison de son interdiction quelques années plus tard. Parce qu'évidemment, les confréries, ce sont des lieux de dévotion où on honore le saint patron, où on peut prier ensemble, on peut accompagner aussi les membres, les confrères morts au moment de leurs funérailles. Mais ça peut être aussi des lieux très festifs, notamment pour la fête du saint patron, avec des banquets où le vin coule à flot. Et ce sont des pratiques que l'Église a cherché à encadrer progressivement, mais il y a quand même eu souvent des suppressions de confréries à cause des débordements. Donc là, peut-être qu'on était plutôt dans l'aspect soit charivari, soit club de notables qui s'amusent, plus que confrérie très pieuse. Bon, en tout cas, quels qu'en aient été les débordements, il est possible que des membres de la famille Pérez y aient participé. Évidemment, de Saint-Jean de Maurienne, je ne peux que donner une autre hypothèse, c'est que le culte de Saint-Jean-Baptiste est quand même bien représenté dans la région, avec les reliques qui se trouvent dans la cathédrale ici, ou celles qui se retrouvent dans la cathédrale d'Aoste également. Donc tout ça, ce sont de très bonnes raisons d'avoir des images de Saint-Jean-Baptiste dans une maison de Bessan. Alors j'ai commencé à vous parler de confrérie. Nous avons ici une confrérie certainement beaucoup plus pieuse, celle dédiée à Notre-Dame du Scapulaire ou Notre-Dame du Mont-Carmel. Alors, quand même, là je vous cite une deuxième confrérie. Bessan est un lieu très particulier en Savoie. C'est le lieu où on a le plus grand nombre de confréries qui sont attestées. Il y en a jusqu'à 9. C'est un type de concentration qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Même à Chambéry, on n'a pas autant de confréries. Et ça ressemble à ce qu'on voit plutôt en Provence, où les confréries étaient beaucoup plus nombreuses. Pour autant, il n'y a pas vraiment d'explication évidente à ce phénomène. La confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel, elle est bien attestée au XVIIIe siècle, dans les textes, mais elle est probablement plus ancienne, puisqu'on a un hôtel dédié à Notre-Dame du Mont-Carmel dans l'église, qui est de 1646. Donc c'est probablement une confrérie au moins du XVIIe siècle. Cette dévotion à Notre-Dame du Mont-Carmel, elle est très largement diffusée par les Carmes, et en particulier sous l'invocation de Notre-Dame du Scapulaire, à cause d'un phénomène qui est assez bien représenté dans l'art baroque en Savoie, qui est l'apparition de la Vierge à Simon Stock, qui est le général des Carmes, donc le supérieur de l'ordre au XIIIe siècle, qui est anglais. Et dans cette apparition, la Vierge lui donne le scapulaire. Alors, le scapulaire, au début, c'est un vêtement qui couvre une partie du buste et qui devient progressivement un élément surtout symbolique. Et c'est souvent sous cette forme-là que le don du scapulaire est représenté, notamment sur cet autel de Notre-Dame du Mont-Carmel, dans l'église de Bessan. Autre confrérie, celle de Notre-Dame du Rosaire, là aussi, une confrérie bien attestée au XVIIIe siècle, mais qui est probablement plus ancienne, puisque l'autel dédié à Notre-Dame du Rosaire dans l'église paroissiale est de 1666. Là, c'est un autre ordre qui en favorise la diffusion, c'est les dominicains. Saint-Dominique, déjà, utiliser un rosaire pour prier. L'ordre, progressivement et surtout à partir de la fin du Moyen-Âge, a favorisé son utilisation auprès des fidèles et pas seulement au sein des religieux. Et c'est tout à fait possible que la confrérie de Bessin ait été créée sous l'impulsion des dominicains, comme on le sait pour d'autres villes de Maurienne, comme à Lens-le-Villard en 1613 ou à Bonneval en 1624. Notre-Dame du Rosaire, en plus d'avoir son invocation ici, on la reconnaît bien puisqu'elle donne ici un rosaire à Saint-Dominique, qu'on reconnaît à son habit, et un autre à Sainte-Catherine de Sienne, qu'on reconnaît à son habit, mais aussi à sa couronne d'épines. Et elle est entourée des mystères de la vie de la Vierge, donc les mystères glorieux et les mystères douloureux, qui sont tous détaillés, et dans les écoinçons, on a deux anges qui dominent la scène. Donc, comme pour les précédentes, probablement qu'un membre de la famille a participé à cette confrérie. Quand on regarde l'ensemble des estampes, et j'ai déjà commencé à vous le montrer, on voit que c'est une famille avec une dévotion très classique. Vous voyez ici une crucifixion beaucoup plus simple théologiquement que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec Marie-Madeleine au pied du Christ, entourée des saintes femmes et notamment de la Vierge. La Vierge occupe une place vraiment centrale dans cet ensemble d'images. Je vous ai déjà montré plusieurs saintes familles, Notre-Dame du Scapulaire, Notre-Dame du Rosaire. Ici, c'est une Vierge qui rappelle un passage du « Je vous salue Marie ». Maria Mater Dei Memento Mei, donc souviens-toi de moi, et la suite c'est à l'heure de notre mort. Ici une autre qui représente l'Immaculée Conception, que l'on reconnaît avec les étoiles que la Vierge a autour de la tête. Alors si elle était en pied, on aurait aussi le croissant de lune, mais là on n'a que le buste. C'est une iconographie qui se diffuse fortement, notamment à partir du XVIIe siècle, sous l'impulsion de Murillo. La Vierge est représentée en s'inspirant de l'Apocalypse. L'Apocalypse nous dit qu'une Vierge enfantera et que sa tête est environnée d'étoiles, que ses pieds sont sur un croissant de lune. Et on a l'inscription qui nous le confirme ici. Inscription en italien, mais pas un très bon italien, qui illustre aussi cette diffusion assez large des images. Alors ici, on est vraiment au comble de la réforme tridentine avec un deuxième Saint-Charles-Borromée. Saint-Charles-Borromée, c'est quand même un saint qui est plutôt le sujet d'une dévotion cléricale par les membres du clergé plus que par les fidèles, à part dans son diocèse, parce qu'il est mis en avant comme évêque parfait. C'est vraiment celui qui est donné en modèle pour tous les évêques, parce qu'au début du XVIe siècle, lorsque Milan est touché par la peste, au lieu de faire ce que font tous les prélats de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est-à-dire de quitter la ville pour prendre le verre un peu plus loin et attendre que l'épidémie passe, il reste sur place, il s'occupe des pestiférés. Donc il a vraiment un côté exemplaire dans le soin des malades. C'est aussi un des premiers fondateurs de séminaires tels qu'on les connaît aujourd'hui, pour améliorer la formation des prêtres. Il sillonne aussi beaucoup son diocèse, comme ne le faisait pas un grand nombre d'évêques, pour confirmer les fidèles, pour vérifier que les églises sont bien tenues. Donc c'est vraiment un saint iconique, si je puis dire, du Concile de Trente. Et autour, on a que des représentations de saints de l'Église universelle, Sainte Geneviève, Sainte Madeleine, Saint Étienne, Sainte Suzanne, Saint Antoine, et ici on retrouve notre Immaculée Conception. On a beaucoup d'images de saintes aussi, qui sont toutes des saintes très classiques. Sainte Hélène, qu'on reconnaît à la croix, puisque c'est elle qui a inventé les reliques de la croix avant de les présenter à Constantin, son fils. Sainte Françoise, qui est une sainte romaine, donc là encore on est vraiment bien dans l'ambiance du Concile de Trente. Sainte Agnès, également une sainte romaine, reconnaissable à son mouton en plus de l'inscription. Sainte Catherine, on retrouve une autre Sainte Geneviève, Sainte Anne ici. Donc, moi j'en ai eu quand même une certaine déception quand j'ai regardé toutes ces images. j'espérais beaucoup avoir des images très savoyardes. Dans tous les saints que je vous ai montrés, il y en a un qui est vraiment très lié au territoire, c'est Saint Bernard. Tous les autres, en fait, on pourrait être au fin fond de la Bretagne ou même en Allemagne du Nord, finalement, on aurait à peu près les mêmes saints. Et ça, c'est sans doute lié au fait que la plupart de ces images n'ont pas été produites sur place. Je vous l'ai montré avec tous ces cadeaux de diffusion et les provenances. Ce sont des images qui proviennent de la vallée du Rhône, de la plaine du Pô, et donc qui ne sont pas particulièrement destinées à notre public savoyard. C'est aussi les images que l'Église, puisque vous avez vu qu'on a quand même surtout des images religieuses, souhaite mettre en avant. Et avec le Concile de Trente, l'Église cherche quand même vraiment à favoriser des saints incontestables, des saints particulièrement exemplaires, au détriment de saints qui sont l'objet d'une dévotion populaire importante, mais dont l'histoire est plus sujette à caution. Mais voilà, c'est ce qui explique qu'on n'est pas nos saints favoris, comme Saint Gras, Saint Guérin, par exemple, pour la protection des troupeaux ou la protection des champs. Donc voilà, c'est plutôt une déception, mais qui s'explique assez bien. Et pour terminer, je voudrais vous donner de quoi rouler des mécaniques quand vous rencontrerez des visiteurs du musée savoisien. C'est qu'aujourd'hui, on a un peu vu la face cachée de la Lune, puisque là, vous voyez la présentation actuelle de ces panneaux. Ce sont quand même des œuvres sur papier, donc ils sont très sensibles à la lumière. La cloison a été présentée en continu entre 1984 et 2015 dans le musée, avec une lumière qui n'était pas graduée. Donc nous avons fait le choix de retourner le panneau pour que le panneau qui avait été très soumis à la lumière soit désormais dans l'ombre, et donc on ne voit qu'une seule face. Une grande partie des images que je vous ai présentées provient de l'autre face, et donc on ne verra pas avant quelques années, voire quelques décennies. Puisque c'est aussi des panneaux qui sont assez difficiles à manipuler. La cloison, quand elle était dans la maison, donc elle est constituée de planches parallèles qui coulissent les unes dans les autres, était insérée dans un rail en bois en partie inférieure et un rail en bois en partie supérieure. Ces deux rails n'ont pas été prélevés, ce qui veut dire que chaque fois qu'on manipule l'ensemble, on a un risque que les planches coulissent les unes sur les autres et arrachent une partie des estampes. Donc ce sont des panneaux qu'on a prêtés à Épinal parce que c'était le moment où le musée fermait, donc de toute façon il fallait qu'on les manipule pour les sortir du bâtiment, mais probablement qu'on ne les prêtera pas avant très longtemps et seulement pour une occasion très exceptionnelle que je n'ai pas en tête là. Mais donc voilà, on ne verra pas le revers avant très longtemps probablement. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que ce petit bout de Maurienne est unique au monde. Oui, bon, que la Maurienne soit unique au monde, je pense que vous en êtes déjà convaincu. Donc les autres le reconnaîtront. Et puis bien sûr, j'attends vos questions.
Il y a un mode de diffusion, vous n'avez pas évoqué les pèlerins.
Ah si.
Si vous ne l'avez pas.
Les pèlerins, c'était... Alors, mon hypothèse, c'est que c'est la famille qui fasse des pèlerinages.
Oui, les gens allaient en pèlerinage, mais le passage des pèlerins, ils n'auraient pas pu...
C'est qu'en fait, je n'ai pas d'image qui m'en parle. Alors, peut-être qu'on peut imaginer que celle-ci soit rapportée par des Turinois qui passent par Besson. Ouais. Pourquoi pas. Mais le problème, c'est que cette famille qui nous a légué quand même un patrimoine incroyable n'a pas écrit. Ou si elle a écrit... Elle ne nous a pas laissé de traces dans les archives qui permettent de savoir en fait d'où ça venait exactement et est-ce qu'ils avaient une fonction d'hébergement. Parce que vu la forme de la maison, avec ces deux chambres d'été, peut-être qu'ils accueillaient des voyageurs et dont effectivement des pèlerins, c'est possible.